9h en temps universel, 11h ici à Paris. Merci d'écouter RFI. L'actualité internationale, c'est en compagnie de Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Namoury, bonjour à tous. À la une, alors que l'aide humanitaire entre toujours aussi difficilement dans la bande de Gaza, cette nouvelle évaluation des Nations Unies, moins de 5% des terres agricoles du territoire palestinien sont encore cultivables. Moscou dénonce une décision assez dangereuse. Les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine lèvent toute limitation de la portée des armes livrées. Un changement de doctrine militaire que l'on va tenter de comprendre. Dans ce journal, également les usines vietnamiennes qui tournent à plein régime avant l'entrée en vigueur des 46% de droits de douane annoncés par Donald Trump, le président américain. Et puis en France, les agriculteurs annoncent une pause dans leur mobilisation puisque la loi Duplon, qui devait être votée à l'Assemblée nationale et finalement rejetée, elle va maintenant devoir passer en commission. Au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, le promet, il ramènera tous les otages du 7 octobre retenus par le Hamas, les vivants et les morts, dit-il, 10 jours après le début de l'intensification de son offensive à Gaza. Hier, le Hamas a indiqué avoir accepté une proposition américaine de trêve de 70 jours dans l'enclave palestinienne en échange de la libération de 10 otages en deux temps, ce que démentent les États-Unis. Dans le même temps, la nouvelle fondation humanitaire de Gaza, créé par Washington et critiqué par les Nations Unies, dénonce des menaces de mort et des manœuvres destinées à empêcher les Gazaouis d'avoir accès à l'aide, pourtant essentielle, alors que selon la dernière évaluation géospatiale de l'ONU, seuls 4,6% des terres agricoles de Gaza sont encore cultivables, soit moins de 700 hectares. Les précisions d'Alice Froussard.
À Gaza, les terres agricoles représentaient environ la moitié de la surface totale de l'enclave côtière, des exploitations familiales, souvent dans des zones frontalières. Désormais, les terres cultivées, les serres, les puits, tout est détruit. La production locale s'est arrêtée et avec ça, l'espoir de nombreux habitants de trouver des fruits et des légumes frais, explique dans un message vocal sa mère, un Gazaoui originaire de Jabalia, déplacé à Derbala.
Notre vie est menacée. Par exemple, si quelqu'un veut cultiver des légumes sur ces terres près des frontières, il va les vendre ensuite à un prix extrêmement élevé en raison de la rareté de l'approvisionnement alimentaire. C'est aussi pour ça que tous les prix ont augmenté dans la bande de Gaza. Et imaginez des bombardements en cascade, 48 missiles qui explosent en 4 secondes, et quand ils touchent le sol, ils font un cratère gigantesque, et on les entend jusqu'à 20 kilomètres. Et tu espères juste qu'ils ne tombent pas sur toi.
Au moment où l'aide humanitaire n'entre qu'au compte-gouttes, c'est une catastrophe. Alerte dans une vidéo sur les réseaux sociaux Benjamin Davis de l'Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture.
La bande de Gaza est au bord de la famine et maintenant le système agricole n'existe plus.
Sans compter les répercussions économiques, avant le 7 octobre, environ un quart de la population vivait au moins partiellement de la production agricole, d'élevage ou de la pêche.
Et c'est dans ce contexte que Friedrich Merz, le chancelier allemand, hausse le ton. Il presse aujourd'hui Israël de laisser entrer l'aide dans la bande de Gaza. Ce que nous voyons n'est en aucun cas acceptable, a-t-il déclaré. Parallèlement, sur un autre front, celui de la guerre en Ukraine, Friedrich Merz a annoncé hier qu'il n'y avait désormais plus de limite de portée pour les armes livrées à Kiev par Berlin, Washington, Londres et Paris, ce qui signifie que l'Ukraine peut maintenant frapper le territoire russe. Une déclaration jugée assez dangereuse par Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre.
Maintenir les Européens dans le jeu, mais aussi, si Friedrich Merz fait cette déclaration publique, c'est aussi pour mettre la pression sur Donald Trump. Parce que Donald Trump donnait des coups de pied sous la table à Vladimir Poutine, notamment avec ses frappes aériennes, contre le territoire russe, mais ne le reconnaissait absolument pas. Et finalement, c'est le chancelier allemand qui le fait à la place de Donald Trump, en lui disant quelque part « Hein Donald, toi aussi tu es avec nous pour aider les Ukrainiens à bombarder le territoire russe ». Et dans le contexte actuel de négociations très difficiles sur une sortie de guerre en Ukraine, c'est un message crucial qu'envoie finalement le chancelier allemand en révélant que les Américains ont dans les faits décidé d'augmenter la pression militaire sur la Russie de Poutine, tout en affichant leur volonté de vouloir négocier.
Des propos recueillis par Harim Lipold pour RFI. Il est 16h05 à Hanoï, au Vietnam, où Emmanuel Macron, le président français, est en déplacement en ce moment. Devant un parterre d'étudiants, il s'en est pris aux droits de douane voulus par Donald Trump, qui, selon lui, change selon les matins, alors que la période de négociation sur ces taxes doit s'achever le 9 juillet prochain. Dans le pays, elle devrait être de 46%. Alors, pour tenter d'échapper à une flambée des coûts de l'export dans le secteur de l'habillement, les usines tournent à plein régime, comme celle dans laquelle s'est rendu Jean-Pierre Fage pour RFI.
Ici, au cœur des montagnes, derrière les grandes parois rouges et grises de l'entreprise S-Life, une centaine de couturières s'activent sous la lumière des néons.
Durant ces 90 jours, les usines de confection comme les nôtres doivent intensifier le travail, faire des heures supplémentaires, étendre les horaires pour finaliser avant juillet les commandes déjà signées en urgence.
Le PDG de l'entreprise, Ding Duan, joue gros, tout comme son pays, dont 30% du PIB dépend des États-Unis. Un modèle remis en cause.
Pour l'instant, entre 90 et 95% de nos produits sont exportés vers les États-Unis. Un chiffre plus équilibré serait 50-60%. Mais développer des nouveaux marchés prend du temps. Et le plus dynamique actuellement, c'est la Corée du Sud.
Les pays asiatiques et les Européens tentent d'offrir des alternatives au Vietnam à la recherche de partenaires, mais impossible de se découpler rapidement du marché américain qui accuse Hanoï de servir d'intermédiaire pour écouler des produits chinois importés massivement au Vietnam.
Côté américain, il y a une inquiétude sur l'origine réelle des produits, une crainte que des marchandises chinoises soient exportées vers les États-Unis via le Vietnam. Mais nous travaillons directement avec des fournisseurs asiatiques et des clients américains et respectons les étapes de fabrication.
Hanoï est à la recherche d'un équilibre précaire, rassurer suffisamment Donald Trump sans trop compromettre sa relation avec Pékin. Jean-Pierre Fage, Hua Bing, RFI.
En France, le parquet national antiterroriste fait appel. Il l'a annoncé hier, 10 jours après que les juges français ont rendu une ordonnance pour signifier leur refus de mettre en examen Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Hutu, assassiné dans le génocide des Tutsis en 1994, Willy Diallo.
17 ans après l'ouverture de l'enquête, Agathe Habyarimana est toujours placée sous le statut de témoin assisté. Selon les associations parties civiles, elle était l'une des dirigeantes de l'AKAZU, le premier cercle du pouvoir Hutu, qui aurait orchestré le génocide. Maître Richard Gizagara est l'avocat des parties civiles.
Les victimes sont les premiers à regretter que cette procédure dure depuis autant de temps. Nous regrettons que ce soit long, mais nous avons toujours espoir que cette dame puisse répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés.
Face à la multiplication des étapes judiciaires, Félix Ménac, avocat d'Agathe Habyarimana, dénonce un acharnement judiciaire.
On assiste à cette manœuvre un peu désespérée du parquet, cette stratégie dilatoire qui vise à précisément tenter d'empêcher le juge d'instruction de rendre cette ordonnance. Alors, je crois que les choses sont claires et aujourd'hui, la prochaine étape qui est attendue, c'est, encore une fois, que le juge d'instruction puisse rendre cette ordonnance qui rendra justice et quelque part aussi son honneur à ma cliente.
Pour la suite, la chambre de l'instruction va devoir de nouveau se prononcer sur la mise en examen. La prochaine décision est attendue dans les semaines à venir.
Toujours en France, les agriculteurs suspendent leur mouvement de colère après le rejet, hier soir par les députés, d'une loi visant à lever les contraintes du métier d'agriculteur appelée loi du plomb, Valérie Gasse.
La gauche était survoltée contre ce qu'elle considère comme une manœuvre pour empêcher le débat sur une loi qui permet notamment la réintroduction de certains pesticides nocifs pour la santé, à l'image de l'écologiste Delphine Bateau.
Chaque voix pour la motion de rejet est donc une voix pour les pesticides et leur cortège de cancer.
Mais le rapporteur droite républicaine Julien Dive, à l'origine de la motion de rejet préalable, est resté campé sur ses positions.
Face à une obstruction massive, méthodique, manifeste de 3500 amendements dont bon nombre visent manifestement à entraver le débat plutôt qu'à l'enrichir, il est devenu impossible de mener une délibération sereine et constructive.
Une version contestée par la présidente du groupe écologiste, Cyrielle Chatelain.
Chacun de ces amendements était utile.
Accusation de mauvaise foi contre accusation de mauvaise foi, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a répondu.
Avec 3500 amendements, le texte ne peut pas aller au bout. Et c'est précisément ce que vous souhaitez.
Avec le soutien du RN et des groupes macronistes, l'issue était prévisible. Le vice-président de l'Assemblée, Roland Lescure, l'a confirmé.
La motion de rejet préalable est donc adoptée.
La chef des députés LFI ne l'entend pas de cette oreille.
Nous déposerons une motion de censure contre ce gouvernement.
Mais le texte va lui partir en commission mixte paritaire où le socle commun est majoritaire.
Et il est 9h10, temps universel sur RFI. Tout de suite, priorité santé avec Caroline Paré.
Un grand merci à vous, Alban Leprince.